Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de bouffer les fils de son caleçon. Jusqu'au bout, Bonaparte était persuadé qu'il convolait avec la gloire, au-dessus des partis, réconciliateur de la France.
Cette série s'achève sur une question essentielle. Napoléon est mort il y a 200 ans, mais qu'est-ce que le bonapartisme ?
Le bonapartisme, c'est l'expression d'un parti populaire, ou du parti populaire, comme vous voudrez, s'en remettant à l'autorité personnelle d'un homme, doué à la fois pour la guerre et pour l'administration, et se présentant comme un adversaire des oligarchies.
Le bonapartisme, ce serait donc un homme charismatique, au-dessus des partis, dans un rapport direct au peuple.
Vous, vous êtes en train de confondre césarisme et bonapartisme.
Je ne confonds rien du tout, car le bonapartisme est une expression du césarisme.
C'est vite dit.
Oui, c'est vite dit. Car le bonapartisme est une affaire complexe. Classé traditionnellement à droite, ce courant politique se nourrit aussi à gauche. La gloire nationale, par exemple, fut l'apanage de la Révolution française face aux monarchies réactionnaires. Les armées révolutionnaires défendaient la nation en danger face aux royalistes. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alors, avec Napoléon, qu'est-ce qui nous importe ?
Ce n'est pas de savoir comment Bonaparte a pris le pouvoir. Ce qui nous importe, c'est de savoir ce qu'il en a fait.
Eh bien, peut-être que Napoléon Bonaparte a accouché d'un centrisme politique. Oui, un centrisme voulant réconcilier la gauche et la droite. Et au lieu d'un ni de gauche ni de droite, le bonapartisme ne serait-il pas au final une tentative d'être et de droite et de gauche ? Une théorie qui nécessite quelques explications.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série en 9 épisodes sur les traces de l'empereur.
Chapitre 9, l'autocrate républicain.
On ne peut rien comprendre au bonapartisme si on ne revient pas aux origines de la Révolution française.
Mais bien, chers frères,
ce dernier épisode prend donc racine dans les paroisses du Royaume de France durant l'hiver 1789.
Nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui 6 mars dans le vestibule de l'église pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Une fois les cahiers de doléances rédigés, les représentants des trois corps du royaume, noblesse, clergé et tiers-état, se sont réunis aux états généraux convoqués par le roi. Ce fut le cas à Versailles, dans la salle des menus plaisirs, le 5 mai 1789.
Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
L'ouverture des États généraux par Louis XVI peut être considérée comme l'amorce de la Révolution française. Car bien au-delà de pointer les dysfonctionnements du royaume, les débats se sont enflammés et la machine s'est emballée. À la mi-juin, le tiers-état se proclame Assemblée nationale et exige une nouvelle constitution.
Vous avez tous entendu le roi.
vous donner l'ordre de vous disperser.
Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne.
Au départ, la noblesse ne réagit pas. Elle y voit l'opportunité de récupérer du pouvoir face à l'absolutisme du roi. Dès lors, plus rien ne peut s'opposer au vent de la révolution.
Aux armes, aux armes.
Deux fois aux armes.
Encore plus.
C'est pour le journal.
Pour le plus grand des journaux, les murs de Paris.
Et l'été 1789 crée une rupture dans la société française. Mais quelle est l'essence de cette fracture ?
C'est assez simple à dire, en fait. Les gens qui sont favorables à la révolution vont agir en politique au nom de valeurs qui sont des valeurs universelles.
L'historien Fabrice Boutillon.
Ils vont dire, nous agissons parce que nous voulons davantage de justice, nous voulons davantage d'égalité, nous voulons davantage de rationalité. Ils agissent au nom de valeurs universelles. Et les gens qui vont s'opposer à la révolution vont défendre l'ancien contrat social, le contrat social monarchique. Ils vont dire, nous préférons à ce nouveau contrat, à cette nouvelle constitution mirifique que vous nous proposez, nous préférons celle que nous avons héritée du passé et qui jusqu'ici nous a fait ce que nous sommes. Autrement dit, leurs valeurs sont des valeurs locales. Et entre les valeurs universelles de cette gauche favorable à la Révolution et les valeurs locales de cette droite qui va s'y opposer, vous avez une déchirure politique dont l'importance dans notre histoire va être absolument déterminante, et cela jusqu'au XXe siècle au moins.
Politique et quasiment anthropologique, Fabrice Boutillon, parce que nous sommes tous faits d'universel et de local. Nous avons un corps local, une pensée universelle. Cette question de déchirure, elle nous concerne tous.
Absolument. Et c'est même cette dimension anthropologique qui fait justement la force de cette distinction entre la gauche et la droite. Vous savez, c'est Blaise Pascal qui dit que l'homme n'est ni ange ni bête, vous voyez. Et pourquoi nous ne sommes pas des anges ? Parce que nous avons un corps qui nous insère localement quelque part, qui fait que vous êtes vous êtes dans ce studio et moi là où je suis, mais entre vous et moi, il y a une raison qui nous est commune et qui nous ouvre sur l'universel. Et ce qui fait le caractère absolument décisif de la Révolution française, c'est que justement, la déchirure va passer entre ces deux dimensions fondamentales de l'humanité. Et c'est ça qui fait que la distinction entre la gauche et la droite est à ce point puissante, vous voyez, parce qu'elle traduit une différence qui est au cœur même de l'être humain.
La Révolution s'est ouverte avec la convocation des États généraux. Et il est coutume de dire qu'elle s'achève par le coup d'État de Bonaparte, les 18 et 19 Brumaire.
Vers 9 heures du soir, quelques membres des 500 qu'on a réunis avec difficulté déclarent. Article 1er. Il n'y a plus de directoire. Article 2. Le corps législatif crée provisoirement une commission consulaire exécutive composée des citoyens CIS. Roger Ducos, ex-directeur, et Bonaparte général, qui porteront les noms de consuls de la République française. Article 3. Cette commission est investie de la plénitude du pouvoir dictatorial.
Et ce soir-là, le 9 novembre 1799, vers 11h du soir, les Parisiens ont vu fleurir une affiche sur les murs de leur ville.
Bien, c'est une proclamation qui est signée par Bonaparte, avec laquelle, à certains égards, il vient au rapport, vous voyez, après le coup d'État, il vient au rapport devant le seul supérieur qu'il se reconnaisse, et qui est le peuple français. Et cette proclamation, elle n'arrive pas par hasard au début de l'histoire du régime, parce qu'on pourrait dire qu'à certains égards, tout le bonapartisme est déjà dedans. Parce qu'elle dit deux choses. D'une part, elle dit quelque chose qui est profondément de droite et qui est la faillite de la République. C'est ce que dit Bonaparte, j'ai dû intervenir parce que la Constitution tombait en ruine. Et il donne une description de la boulie des assemblées, de la terreur que font régner certains à l'intérieur de ces assemblées, du désordre, de l'anarchie. Donc la Révolution, à certains égards, a échoué, la République a fait faillite. Vous avez là un thème qui est un thème de droite, et non seulement on a un thème, mais on a une action, puisqu'on va intervenir pour mettre un terme à ça et intervenir par la violence militaire. On est aux antipodes, vous voyez, du credo républicain. Et en même temps, il y a dans ce texte l'idée que si on fait ça, c'est pour sauver la République. Et la meilleure preuve qu'on reste républicain, c'est que justement, à peine cette affaire-là est-elle terminée, qu'on vient au rapport, on affiche sur les murs de Paris ce qu'on a fait et on demande l'approbation du peuple français. Cela, c'est pour le contenu. On a donc quelque chose et de droite et de gauche. Mais c'est vrai aussi dans la forme de cette proclamation. Parce que dans cette proclamation, vous avez un seul nom, c'est le nom du général Bonaparte. Vous avez là quelque chose de très personnel, de très monarchique, de très local, de très de droite. Alors que, d'autre part, on s'adresse au peuple par voie d'affiche. Et quand vous regardez une affiche, eh bien, tout le monde est sur un pied d'égalité face à cette parole qui vient d'un peu haut et qui est l'affiche. Et vous avez là une structure essentielle du bonapartisme, la rencontre entre un homme, c'est monarchique, et d'autre part, le peuple égalitaire, ce qui va donner plus tard la pratique bonapartiste du plébiscite.
Et puis la Révolution, Fabrice Boutillon, a été un nous, hein, un collectif. Les assemblées, les clubs, la foule, le peuple. Soudain, avec cette affiche, on passe à un jeu. Bonaparte s'exprime à la première personne. Là aussi, il y a rupture en 99.
Absolument. C'est Madame de Staël, je crois, qui dit ça. Elle explique que jusqu'à ce moment-là, finalement, on avait toujours eu affaire à un collectif. Le peuple, l'assemblée constituante ou législative, le comité de salut public et même le directoire. C'était 5 personnes. Et d'un coup, vous avez désormais une personnalité qui s'impose et qui va s'imposer pour 15 ans à la vie politique française. Et Madame de Staël disait, refoulant tout le reste du pays dans l'anonymat.
Ne l'a-t-il pas dit lui-même ? Il faut savoir regarder l'oppresseur dans les yeux. Je le regarde dans les yeux.
Avec son coup d'État, Bonaparte a liquidé le directoire et ses thermidoriens, dirigés par Barras.
Bien soucieux, mon ami.
Soucieux qu'il était de maintenir son équilibre politique.
J'ai la tête un peu branlante.
Qu'allez-vous faire ?
Me cramponner. Si je penche à gauche, les jacobins me dévorent. Si je penche à droite, les royalistes m'exécutent. Parti serré.
À partir de la Révolution, vous avez à la fois une pulsion de gauche extrêmement forte, une pulsion de droite qui ne l'est pas moins, mais vous avez aussi une pulsion centriste qui veut absolument réconcilier la gauche et la droite, qui veut réconcilier l'universel et le local, parce que la nature même de l'humanité ne peut pas supporter qu'on les sépare. C'est la raison pour laquelle, dans notre pays, on va voir fleurir toutes sortes de centrismes, autrement dit, d'expériences tendant à réconcilier la gauche et la droite. Et on peut considérer qu'il y a une première forme de centrisme, celle à laquelle on pense tout de suite quand on prononce ce mot, et qui est le centrisme par exclusion des extrêmes. Nous avons vu, disent ces gens-là, combien l'extrême-gauche et l'extrême-droite sont dangereuses. Écartons-les et essayons de nous réconcilier en gardant un minimum de la gauche, un minimum de la droite. Et les thermidoriens dont vous parlez, hein, ceux qui vont fonder le régime du directoire après la chute de Robespierre, eh bien, ils correspondent tout à fait à ça. Ces gens-là ont été de gauche, mais la dérive terroriste de la Révolution les inquiète et ils vont donc renverser Robespierre. Et à partir de ce moment-là, la gauche est cassée en deux, entre une gauche qu'on pourrait appeler radicale, celle qui aurait voulu que la terreur se poursuivent et une gauche modérée qui est la gauche thermidorienne et puis qui va devenir directoriale.
Notre tâche est d'assurer la puissance des notables, des possédants, d'écarter l'ancien régime et de prévenir l'éclat populaire. Vous suivez ?
Je vous précède.
Non, laissons les rois à l'exil et ne pensons qu'à nous-mêmes. Préparons le siècle à venir. Inventons-le.
Mais ces gens-là, donc, ne sont pas de droite, parce que, entre autres, beaucoup d'entre eux ont voté la mort du roi. Donc si Louis XVIII, frère de Louis XVI, revenait sur le trône, il commencerait par leur couper la tête. Donc ils ne sont plus à l'extrême-gauche, ils ne peuvent pas être de droite. Vous avez là un premier régime centriste par exclusion des extrêmes.
Et alors, à l'aune de ce centrisme-là, Qu'est-ce donc que le bonapartisme, Fabrice Boutillon ?
Je vous dirais que le bonapartisme est justement une autre forme de centrisme. Lui aussi va essayer de réconcilier la gauche et la droite, et c'est ce que nous disions à propos de cette proclamation sur les murs de Paris. Mais il va le faire sur un autre mode que l'exclusion des extrêmes. Il va le faire, justement, lui, par addition des extrêmes, en reprenant une dimension extrême de la droite, qui est justement la dimension monarchique, ce qui va donner l'aspect dictatorial, du
pouvoir autoritaire,
le pouvoir autoritaire d'un homme, mais il va garder aussi l'extrême de la gauche, c'est-à-dire le recours à la démocratie plébiscitaire. Et il faut rappeler que, sauf erreur de ma part, le premier plébiscite qui a eu lieu dans notre pays, il a été voulu par le jacobinisme pour justement faire approuver par le peuple français la disparition de la monarchie et la proclamation de la République. Et ce qui fait la singularité du bonapartisme, c'est qu'il unit cet héritage de droite et cet héritage de gauche. Il est un centrisme par addition des extrêmes.
On ne doit pas une seconde songer à un retour déguisé à la monarchie.
Il n'y aura plus jamais droit en France, Talleyrand. Je suis républicain.
Oui, mais un empereur peut être élu de la même façon que les Césars l'étaient autrefois à Rome.
Les Césars étaient élus par le Sénat. Moi, j'exigerais que ce soit tout le peuple français qui ratifie et approuve mon élection.
Je serai donc le premier citoyen français à avoir l'honneur de vous présenter mes respects. Sire.
Sire. Sire.
Je vous assure que vous vous y ferez très vite.
On verra bien.
Et alors, une des images parfaite de ce centrisme politique, donc le bonapartisme, c'est le sacre peint par Jacques-Louis David en 1804. Pour commencer, Fabrice Boutillon, rappelons aux auditeurs ce que représente le tableau de David.
Oui, je crois qu'à peu près tous les auditeurs l'ont dans l'œil, ce tableau de David. Mais en fait, on ne s'aperçoit pas assez que dans ce tableau, on ne voit pas l'essentiel. Car qu'est-ce qui s'est passé le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris ? Il y a eu deux moments essentiels dans la cérémonie. Il y a eu d'une part le sacre et d'autre part le couronnement. Alors c'est quoi la différence ? Le sacre, ça consiste à mettre de l'huile sur le corps du chef de l'État, parce que elle symbolise toutes les prospérités que Dieu peut accorder dans des civilisations agricoles. Vous voyez donc, depuis la très haute antiquité juive, vous avez un représentant de Dieu qui, pour investir le roi, va mettre sur son corps de l'huile, une onction, et ça en fait justement un oint du Seigneur, Messie ou Christ. Donc de l'huile sur le corps du roi. Et puis vous avez un autre geste qui, lui, justement, n'est pas un geste biblique, mais un geste qui vient plutôt de l'Antiquité grecque et qui consiste à couronner, à poser une couronne sur la tête du chef de l'État. Et ces deux gestes-là, avant la Révolution française, c'était un représentant de l'Église catholique qui les posait. Donc l'archevêque de Reims oignait d'huile le corps du roi et posait sur la tête du roi une couronne. Eh bien, le 2 décembre 1804, dans Notre-Dame, les deux gestes vont avoir lieu. Le pape va mettre, effectivement, une onction d'huile sur le corps de Napoléon, et d'autre part, Bonaparte va poser sur sa tête la couronne.
Voici l'onction sacrée. Le pape bénit les ornements impériaux et les remet à l'empereur. D'abord l'anneau, qu'il passe à son doigt. Et puis, le manteau, la main de justice, et puis la couronne.
Ce qui est incroyable, c'est que quand on regarde le tableau de David, on ne nous montre aucun de ces deux gestes. Parce que quand Bonaparte a reçu le sacre de la part du pape, Bonaparte, Napoléon, c'est agenouillé devant le pape. Il s'est mis à genoux devant le pape et c'est dans cette posture que le pape donc a procédé à l'onction d'huile. Et ça, évidemment, on ne peut pas le montrer. Parce que si on montre ce geste où l'Église est supérieure à l'État, eh bien on revient à l'Ancien Régime et on proclame que la Révolution a perdu et que la contre-révolution a gagné, qu'on est revenu à un régime où l'Église catholique investit le pouvoir civil. Alors pourquoi ne pas montrer l'autre geste ? Bien, l'autre geste, on voit Napoléon qui s'auto-couronne pendant que le pape ne sert à rien. Mais si on montre ce geste-là, on prétend que la révolution a gagné et que désormais un nouveau contrat social est fondé sur une base eh bien révolutionnaire. Or, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que à partir de la Révolution française, justement, notre pays rentre dans une phase de guerre civile où les constitutions tiennent 10 ans au maximum et s'effondrent. Donc, on ne peut montrer ni la victoire de la droite, ni la victoire de la gauche. Et c'est pourquoi David a fini par montrer une scène qui n'a aucune importance, le couronnement de l'impératrice, mais qui permettait de réconcilier la gauche et la droite. Parce que si vous regardez le tableau, vous voyez Napoléon qui couronne Joséphine. Donc Napoléon, finalement, crée le rang impérial. Autrement dit, le rang impérial est créé par une démarche laïque. Victoire de la Révolution, c'est la version de gauche. Mais d'autre part, vous voyez le pape qui bénit Napoléon en train de couronner Joséphine. Donc, dans ce cas-là, le pape autorise Napoléon à créer le rang impérial. Le pape est au-dessus de Napoléon, et là, c'est la droite. Et vous avez donc là un tableau incroyable, parce qu'effectivement, il arrive lui aussi à concilier les extrêmes.
Un tableau centriste. Donc.
Un tableau centriste par addition des extrêmes.
Ouf ! Quelle journée ! Pire qu'une bataille, mais celle-là, je crois bien que je l'ai gagnée. Quelle belle représentation je vous ai donnée. Tu as vu la tête du pape quand j'ai pris la couronne de ses mains pour me la poser moi-même sur la tête, hein?
Résumons. La gauche et la droite existaient avant la Révolution française, notamment en Angleterre. Mais disons qu'en France, à partir de 1789, il s'est opéré une déchirure entre les valeurs universelles de la gauche et les valeurs locales de la droite. Fabrice Boutillon estime que cette rupture a entraîné chez certains, et chez Bonaparte en premier lieu, un puissant désir de réconciliation entre la gauche et la droite. Donc, le bonapartisme vu comme un centrisme. Alors certes, c'est une pensée qu'on peut juger conservatrice, mais tirons le fil et voyons quelles conséquences peut avoir cette théorie jusqu'au XXe siècle.
Justement, il faut encore mobiliser ce concept de centrisme par addition des extrêmes. Je crois vraiment que, à l'époque contemporaine, c'est Bonaparte qui invente, ou qui plus exactement réinvente, vous voyez, cette figure politique. Il en est la première incarnation après la Révolution française. Or, le centrisme par addition des extrêmes va continuer au XIXe et au XXe siècle. Et ce qui me frappe, c'est que au XXe siècle, les représentants par excellence de ce centrisme par addition des extrêmes ont été les grands totalitaires, c'est-à-dire le nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie et le stalinisme en Russie. Prenons le totalitarisme le plus évident qui est le nazisme. Nazisme, c'est une abréviation pour national-socialisme. Et dans national-socialisme, vous avez justement une valeur extrême de la droite qui est le nationalisme, une valeur extrême de la gauche qui est le socialisme. Et dans le nazisme, vous avez également cette rencontre entre un meneur qu'on va appeler charismatique et une masse plébiscitaire. Et le seul moment dans l'histoire de l'Allemagne où il y a eu des plébiscite, c'est justement le Troisième Reich. Donc ça marche pour le nazisme. Vous regardez le stalinisme. Là encore, vous allez avoir cette rencontre entre un meneur et une masse après une révolution, comme chez nous. Et d'autre part, la seule définition que Staline soit jamais parvenu à donner du stalinisme, c'est de dire qu'il voulait réaliser lui aussi le socialisme, valeur universelle de la gauche, mais dans un seul pays, vous voyez, valeur locale de la droite. Et quand vous regardez le fascisme italien, il naît dès l'année 1914 camp, le meneur de l'ultra-gauche italienne, Benito Mussolini. Vous voyez, il est socialiste. Il est l'équivalent italien de Jaurès. Jaurès est le chef du socialisme français parce qu'il dirige l'humanité. Mussolini est le chef du socialisme italien parce qu'il dirige l'Avanti. Mais Mussolini, il est plus à gauche que Jaurès. Jaurès a des allures de politicien opportuniste par rapport à Mussolini. Et voilà que ce meneur socialiste italien, ce meneur de l'ultra-gauche, eh bien, bascule dans le nationalisme au moment de l'éclatement de la Première Guerre mondiale et passe à l'interventisme. Autrement dit, au XXe siècle, on voit s'épanouir sous ces trois formes ce centrisme par addition des extrêmes sur le plan idéologique et cette rencontre sur le plan sociologique entre des masses et des meneurs charismatiques.
Наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед!
Вива Италия!
Et il me semble qu'on voit réapparaître là, en plein XXe, une formule que le premier à avoir expérimenté avait été justement Napoléon Bonaparte. Et en disant cela, je ne suis pas en train de faire un procès en totalitarisme à Bonaparte, pas plus que je ne suis en train d'essayer de réhabiliter les trois autres, vous voyez. Ce que je constate simplement, c'est que les mêmes situations finissent par provoquer les mêmes conséquences. Et que quand vous avez cette fracture entre gauche et droite qui est liée à une révolution, il y a deux moyens d'en sortir de cette fracture entre gauche et droite. C'est soit le centrisme par exclusion des extrêmes, soit le centrisme par addition des extrêmes. Et comme au XXe siècle, vous allez avoir révolution en Russie, mais aussi en Allemagne, bon, et des choses quand même comparables en Italie, il ne faut pas s'étonner qu'on finisse par tomber sur une expérience politique qui, à certains égards, évoque le bonapartisme, puisque le bonapartisme, lui aussi, est né d'une révolution.
Apostrophe.
Je veux bien tout sur Napoléon. Je sais bien qu'il va y avoir ensuite le dictateur.
Jean Tullard.
Donc ça vous a peut-être incité à faire ce parallèle entre Napoléon et Hitler. On ne peut pas le faire. Il n'y a pas d'idéologie raciale. Il n'y a pas d'extermination systématique d'un peuple dans les campagnes napoléoniennes. Il y a, c'est vrai, des atrocités que Goya a montrées. Mais les atrocités, elles étaient de part et d'autre. Il n'y a jamais... Ah non, je vous assure, je ne suis pas un défenseur de Napoléon. Jamais, en aucun moment,
sur la question juive,
non,
messieurs, ne chevauchez pas tous en même temps.
Alors si Bonaparte est précurseur, Fabrice Boutillon, il n'est pas totalitaire, il est peut-être pré-totalitaire. C'est important de le dire parce qu'il faut aussi souligner les différences qu'il y a entre Bonaparte et les totalitaires.
Non, mais vous avez absolument raison. Je ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je ne dis pas. Vous voyez, ce que je ne dis pas, c'est que Bonaparte ait été un totalitaire. Je dis que dans le bonapartisme, on voit apparaître des choses qu'on va voir réapparaître après dans le totalitarisme. Alors quelles sont par exemple les différences évidentes entre Bonaparte et les totalitaires ? Eh bien, au sein des trois phénomène totalitaire du XXe siècle, il y a par exemple l'importance du parti politique. Il n'y a pas de parti politique, au moins dans le premier bonapartisme. Il y a aussi une différence qui est fondamentale, c'est que pour Bonaparte, l'antisémitisme n'est pas un moyen de gouvernement. Alors qu'il est tout à fait remarquable que justement aussi bien le fascisme et le stalinisme est fini par développer une politique antisémite comme le nazisme. Vous voyez, ça fait une différence qui est quand même très nette.
Chers téléspectateurs, bonjour. En cette année du bicentenaire, beaucoup d'émissions ont été consacrées à Napoléon. Aujourd'hui, c'est un aspect un peu particulier des problèmes posés par Bonaparte et Napoléon que nous allons consacrer notre émission à un sujet extrêmement vaste d'ailleurs, Napoléon et les Juifs.
Prenons un instant, justement, pour évoquer les rapports de Bonaparte à la communauté juive, un dossier rarement abordé. D'abord, précisons qu'en 1789, il n'y avait que 40 000 juifs en France. Et où vivaient-ils ?
la plupart d'entre eux étant concentrés en Alsace et en Lorraine, avec quelques milliers du côté de Bordeaux ou de Bayonne, à peu près 500 à Paris, quelques-uns à Avignon, proportion très faible.
L'historien Pierre Birnbaum.
C'est même là un des aspects intéressants de cette période, c'est à quel point finalement cette question va être importante pendant ces années, alors qu'elle concerne une partie de la population si minime.
Quand la révolution éclate, quelle vision les révolutionnaires ont eue à l'égard de la communauté juive ?
Une vision universaliste, c'est-à-dire en septembre 91, au bout de certains débats qui ont lieu pendant 2 ou 3 ans.
Messieurs ! Un siècle nouveau va s'ouvrir. Les juifs sont membres de cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples.
D'un seul coup, avant qu'elle se sépare, l'Assemblée décide que les juifs sont des citoyens comme les autres.
La motion est adoptée.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne leur demande rien en échange. Aucun signe de renoncement. On les intègre à la nation. Ils doivent être citoyens, qu'ils acceptent d'entrer au fond dans la normalité de la loi de la Révolution française. Et à mon sens, la période qui suit, celle de Napoléon dont nous allons parler, ce qui la caractérise, c'est de remettre en question cela. Et il ne s'agit pas de porter un jugement négatif ou hostile à l'empereur, mais simplement de constater cela, c'est-à-dire que les Juifs sont citoyens en septembre 91, ils ne le sont plus aux yeux de l'empereur en 1806 et en 1807, puisqu'on va leur demander, effectivement, cette fois, un certain nombre de preuves pour voir en eux des citoyens. Je peux citer des textes tout à fait intéressants.
Allez-y.
Comme, par exemple, Mollet.
Qui est Mollet ?
Mollet est un membre du Conseil d'État très important qui a été nommé par l'empereur, qui vient inaugurer l'Assemblée des notables au nom de Napoléon. Il dit ceci, « Vous allez être jugé en justice et vous allez voir, par un prince chrétien, votre sort fixé. Sa Majesté veut que vous soyez français. » Ce qui implique qu'aux yeux de Sa Majesté, ils ne le sont plus, ils ne le sont pas. Et c'est un peu ça, au fond, qui fait problème, à mon sens. Mollet est le porte-parole d'un empereur qui, un mois avant, s'adresse au Conseil d'État en mai 1806. Et il dit ceci, « Les Juifs ne sont pas de la même catégorie que les protestants et les catholiques. Ils ne sont pas citoyens. Ils ne sont pas citoyens. Or, ils le sont. » Ils le sont depuis septembre 91. Et dans le même texte, Napoléon a ces phrases qui sont tout de même un peu... qui font mal au cœur.
Il faut les juger d'après le droit politique et non d'après le droit civil, puisqu'ils ne sont pas citoyens. Il serait dangereux de laisser tomber les clés de la France, Strasbourg et l'Alsace, entre les mains d'une population d'espions qui ne sont point attachés au pays. On pourrait leur interdire le commerce en se fondant sur ce qu'ils le souillent par l'usure et annuler leurs transactions passées comme entachées de fraude.
C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de préjugés qui étonnent pour un héritier de la Révolution française et qui peuvent peut-être se rapporter à un événement qui s'est déroulé un mois avant. En février 1806, le vicomte de Bonald, qui est le prince penseur de la contre-révolution catholique intégriste, a publié dans le Mercure de France, qui est le journal le plus important de l'époque, un article qui s'appelle « Sur les Juifs », où il dit la même chose, il dit « Les Juifs, je cite, « les Juifs ne peuvent être, et même quoi qu'on fasse, ne seront jamais citoyens sous le christianisme sans devenir chrétiens ». Les choses sont réglées. Et ce qui est étrange tout de même, c'est pour quelle raison est-ce que l'empereur se fait l'écho un mois après des termes identiques. De Bonald dit « Les Juifs sont des nouveaux féodaux ». J'attire votre attention sur ce terme de féodaux. L'empereur reprend le même terme et ce terme, on va le retrouver tout au long du XIXe siècle et dans le discours antisémite de Drummond.
Paris, ici vécu Édouard Drummond qui, le premier en France, posa le problème juif dans toute son ampleur. L'Institut des questions juives commémore en présence de Madame Drummond le souvenir du courageux précurseur.
Il va dire « les Juifs sont des féodaux », on va le revoir à nouveau pendant Vichy, c'est-à-dire ce sont ceux qui exploitent en réalité le peuple français chrétien, bien sûr, ce sont les nouveaux exploiteurs. Et il y a là au fond quelque chose qu'il n'est pas question de passer sous silence, c'est-à-dire il faut constater en effet ces phrases, voir que l'empereur partage des préjugés. Parce qu'on peut comprendre ce qu'il veut faire. C'est même au fond la perspective de la Révolution française, qu'il y ait une nation. Une nation avec des citoyens qui abandonnent la religion à l'espace privé. C'est une thématique, une perspective qui est parfaitement légitime, à laquelle on ne peut que souscrire. Mais ce que l'on va demander aux Juifs n'est pas du tout ce que l'on demande aux chrétiens, catholiques ou protestants, quelques années auparavant. C'est là que s'introduit quelque chose qui est spécifique et qui relève quand même d'un certain nombre de préjugés.
Précisons les choses. Des préjugés, à l'évidence. Mais Bonaparte n'était pas antisémite au sens où on l'entend aujourd'hui. Non. Il voulait étatiser les religions. Autrement dit, intégrer les juifs dans la nation, les normaliser afin d'éviter les particularismes. C'est profondément différent d'une persécution antisémite. Cela dit, pour y arriver, le régime impérial, devenu chrétien sous l'égide du pape, a eu recours à des procédés qui nous choquent aujourd'hui. Avec, entre autres, ce qu'on a appelé par la suite le décret infâme, publié en 1808 et applicable aux juifs alsaciens.
C'est tout un ensemble de mesures qui fait en sorte que, pour qu'un juif soit commerçant, il doit obtenir l'aval du conseil municipal de la localité. On peut imaginer à quel point ça va être facile. Les juifs n'ont pas le droit de s'installer. Les juifs ne peuvent pas venir habiter en Alsace et en Lorraine. Les juifs ne peuvent pas se faire remplacer à l'armée. Vous voyez, c'est tout un ensemble de mesures
discriminatoires.
Le plus intéressant dans cette affaire, c'est ce qui a été, à mon avis, trop négligé et qui est pourtant tellement novateur, c'est que face à cette exclusion de la normalité de la loi, du code civil, ce sont les hauts fonctionnaires, Regnault de Saint-Angély ou Beugnot, par exemple, nommés par Napoléon lui-même, qui se dressent et, dans une séance mémorable du Conseil d'État, disent à l'empereur « mais c'est absolument inconstitutionnel, c'est absolument aller à l'encontre de la loi, puisque la loi s'applique à l'ensemble de la nation ». Alors que, un siècle plus tard, un siècle et demi plus tard, lorsque cette question de la nouvelle exclusion des Juifs va se poser, avec le statut des Juifs en 1940, pendant Vichy, c'est tout le contraire qui se produit. C'est-à-dire que cette fois, l'État obéit. Le Conseil d'État, qui a tellement bien résisté à l'empereur, obéit aux lois d'exclusion de la citoyenneté qui sont voulues explicitement par le maréchal Pétain et qui sont louées, chantées par l'ensemble du camp antisémite. Les journaux les plus radicaux de l'antisémitisme célèbrent Napoléon. La pensée de Napoléon qui a essayé d'exclure les Juifs et qui n'a pas réussi et que Pétain enfin va réussir. Et ça fait un peu mal au cœur de voir que la période de Vichy, c'est la période où l'État abandonne cette logique qui a été la sienne de manière si courageuse face à l'empereur.
Pour résumer, la société du Premier Empire véhiculait de profonds préjugés anti-judaïques. Mais ça n'était pas la France de Vichy.
Eh bien, chers auditeurs, vous savez que depuis quelques jours, la question juive a pris une ampleur plus considérable encore que dans les mois écoulés. L'obligation faite aux juifs de porter l'étoile jaune n'a pas manqué de susciter des commentaires. C'est pourquoi Radio Paris, dans son souci d'objectivité, a demandé à l'un des plus qualifiés spécialistes de la question juive, M. André Chaumet, vice-président de l'Association des journalistes anti-juifs, de nous citer quelques chiffres sur l'envahissement de la France par les fils d'Israël.
Sein mit euch Kinder gleich. Kinder, kleinen Kind.
Le 15 août 1969,
Nous sommes en direct avec Ajaccio maintenant, avec notre envoyé spécial Yves Mourouzi. Et Yves, je crois que dans quelques minutes, à midi précisément, le président Pompidou va prononcer son discours.
Oui, Jean-Claude Bourret, effectivement, et M. Pompidou arrive en ce moment même sur la place du Maréchal Foch. C'est un peu plus tôt que prévu. M. Pompidou qui salue du bras de la main droite exactement la foule qui l'applaudit.
Pour le bicentenaire de la naissance de Bonaparte, le président Pompidou commémora l'empereur des Français.
Le président de la République célèbre la mémoire de l'empereur, car nos gloires n'appartiennent qu'à la France.
Depuis et jusqu'à Emmanuel Macron,
Napoléon Bonaparte est une part de nous.
Aucun président de la République ne s'était risqué à une commémoration napoléonienne. Revenons à Georges Pompidou, premier héritier du gaullisme. Si l'on considère, comme Fabrice Boutillon, que le bonapartisme est un centrisme par addition des extrêmes, avec une autorité incarnée par un seul homme et le recours direct au peuple, se pose une dernière question. Le gaullisme est-il un bonapartisme ?
On l'a beaucoup dit au général de Gaulle. Hein. Vous voyez, des gens respectables comme Raymond Aron ont pensé cette comparaison. Alors, ce qui me paraît incontestable, c'est que le gaullisme, justement, relève de l'addition des extrêmes. Dans la mesure où, en effet, vous avez en de Gaulle une dimension monarchique, vous voyez, une incarnation locale du pouvoir hein, en un homme, en une personnalité. Et d'autre part, le gaullisme s'est toujours appuyé sur le plébiscite, sur la démocratie plébiscitaire.
Le référendum.
Le référendum, absolument. Bon, donc, que le gaullisme appartienne au centrisme par addition des extrêmes, ça me paraît incontestable. En revanche, que le gaullisme soit un bonapartisme, moi je n'en suis pas du tout persuadé. Une différence fondamentale, c'est que le gaullisme, lui, ne naît pas d'une volonté de réconcilier la gauche et la droite. Il ne naît pas de cette fracture entre la gauche et la droite. Il naît du refus de la défaite. Or, justement, s'il y a bien un compromis que le général de Gaulle n'a jamais essayé, c'est le compromis entre, justement, l'acceptation de la défaite et le refus de la défaite, vous voyez. Et il a toujours été très clair, il refusait la défaite, il refusait la collaboration. Et jamais il n'a essayé, justement, de tendre la main à Vichy. Il fallait choisir, vous voyez. Et il me semble que, de ce point de vue-là, justement, le gaullisme est très différent de la tentation bonapartiste pour essayer de réconcilier les deux côtés de la fracture. Autre chose aussi qui me paraît évident, c'est que quand on regarde le bonapartisme, et de ce point de vue-là, il est assez proche des totalitarismes, le bilan est assez catastrophique. Je veux dire, quand Bonaparte quitte la France est beaucoup plus petite qu'il ne l'a trouvée. Il a épuisé le pays. Le bilan du bonapartisme, moi, je ne suis pas sûr du tout qu'il soit extraordinaire. On ne peut pas dire ça du général de Gaulle. Et puis, il y a un autre point qui est essentiel. Le gaullisme, justement, va toujours prendre soin de maintenir la légitimité républicaine. Car au moment de la Révolution, au moment de cette fracture, ce qui disparaît, c'est la légitimité. Et la légitimité, c'est quoi ? C'est ce qui fait que dans un pays, un régime est considéré comme naturel. Élisabeth II, la Confédération helvétique, vous voyez, voilà des exemples de régimes légitimes. Et nous n'avons plus de légitimité en France à partir de la Révolution française, quand le pouvoir est de gauche, la droite le vomit, quand le pouvoir est de droite, la gauche le vomit, et quand le pouvoir est au centre, la gauche et la droite le vomissent. Et justement, ce qui va se passer, c'est que en 1914, ça s'arrête. La gauche et la droite se réconcilient dans la défense nationale. Et à partir de ce moment-là, la République devient chez nous aussi légitime qu'avait pu l'être la monarchie avant elle. Eh bien, ce que je constate, c'est que le général de Gaulle, justement, n'a jamais étranglé la République. Il a toujours pris soin de maintenir cette légitimité. Et vous savez, l'un des moments les plus éloquents à cet égard, c'est la libération de Paris.
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libérer.
Il vient à Paris donc pour la libération de la ville, il va au balcon de l'hôtel de ville, et vous avez un Gus qui vient le trouver, et qui lui dit « Mon général, ben vous êtes au balcon, vous allez proclamer la République !» Et Dieu sait si ça s'était fait au 19e de proclamer la République du balcon de l'hôtel de ville. Réponse du général de Gaulle, « Elle n'a jamais cessé d'être. »
Libérée par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
Et en 58, quel est le chef-d'œuvre politique du retour du général de Gaulle? Parce que quand même, ça sent bon le coup d'État, vous voyez. Mais justement, il n'y en a qu'un fumet. De Gaulle va faire en sorte que son retour au pouvoir réussisse à s'installer dans la continuité de la 4ème République. Le fil de soie de la tradition n'a pas été déchiré. Le fil de soie de la légitimité. Et ça, c'est quand même cardinal.
Une chose est sûre, De Gaulle s'est inscrit dans la légitimité républicaine née de l'union sacrée après la victoire de la Première Guerre mondiale. La République, socle fondamental de notre société. Napoléon avait le désir de réconcilier les Français, mais à l'aune des polémiques de ces derniers mois, pas sûr que l'empereur eût été satisfait. Peut-être aurait-il même nourri quelques regrets. Nous voilà arrivés au terme de cette série, et alors que nous avions commencé par des mots de Talleyrand prononcés par Sacha Guitry, nous laissons à nouveau les mots de la fin à Monsieur de Talleyrand, cette fois-ci incarné par Claude Riche, et tout est dit.
Dans ma jeunesse, j'ai eu une ambition pour la France. Je l'aurais voulu exemplaire. Une France exemplaire où l'on aurait parlé paisiblement la plus belle langue du monde. Il est bien malheureux que l'empereur n'ait pas eu cette même idée de la France. Lui ne l'aimait que débordant de ses frontières naturelles. En cru, si j'ose dire. Napoléon, dans ses fureurs, a tué la douceur de vivre.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série de Philippe Collin, réalisée par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Thierry Dupin, Romain Couturier, Hervé Evano. Avec la participation de Nicolas Lormeau, de la Comédie Française. Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, est un podcast original de France Inter.